Vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3 et c'est l'heure de l'hebdo aujourd'hui consacrée à la situation d'Italie avec Gianfranco Rebuccini qui est chercheur et anthropologue.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les années 70, que c'est vrai qu'à cette période-là, les organisations syndicales italiennes, c'était quand même, c'était au cœur de l'activité sociale et politique en Italie. Et quelle est la situation aujourd'hui et comment on est arrivé à cette situation ?
Alors, une situation très dégradée pour les centrales syndicales les plus grandes, pour elles aussi, c'est une situation très dégradée, avec une série de réformes pour diminuer le pouvoir et le poids des syndicats dans les négociations avec les entreprises, dans les négociations avec l'État. Il y a aussi, vous rappelez les années 70, mais on assiste aussi depuis les années 2000 d'un regain d'un syndicalisme autonome. C'est-à-dire qui s'extrait de ces trois grandes structures centralisées du syndicat italien, qui est la CGIL, la CISL et la UIL. C'est un peu tripartite, un peu comme en France. Et qui essaye d'avoir un syndicat plus de combat, plus proche des travailleurs, qui amène les instances des travailleurs de façon plus directe. Mais on peut pas dire pour l'instant que ce soit une très grande réussite, parce qu'il y a une très grande diversité des syndicats autonomes. Il y a ceux qui viennent justement des années 70. En fait, l'idée vient des années 70.
Et l'inspiration.
L'inspiration, voilà. Mais après, les syndicats actuels qui sont autonomes, ils ne sont pas forcément tous sur des idées d'extrême gauche, d'autonomie du travail, de lutte contre le travail, même. Ça, c'est des revendications de l'époque. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un mouvement unitaire dans ce sens de l'autonomie par les syndicats. Après, on peut aussi dire que les syndicats, même les centrales historiques, se trouvent dans des difficultés énormes, notamment avec les gouvernements de centre-gauche. C'est avec eux qu'ils n'arrivent pas à trouver une espèce d'unité qu'ils avaient quand Berlusconi était président du Conseil. Mais là, c'est l'éclatement total. La CGIL fait un très gros travail aujourd'hui pour le respect des normes démocratiques sous la Constitution, par exemple. Elle a été en première ligne pour le non. Et je pense qu'elle a contribué d'une façon assez significative pour la victoire du non au référendum. La CGIL a beaucoup contribué à cette victoire-là.
Alors, devant cette situation entre le Parti démocratique, la Ligue du Nord, le mouvement 5 étoiles, le parti de Berlusconi, la gauche de la gauche, les Italiens vont devoir se confronter maintenant devant tout ce panorama politique et syndical que vous venez de
dire. Et la crise de l'Union européenne.
Et la crise de l'Union européenne,
voilà.
Par-dessus le marché. Marché commun.
Alors, je pense que ma réponse aurait été beaucoup plus difficile à entendre il y a quelques mois en France. Mais je pense qu'aujourd'hui en France, on est un peu dans la même situation. C'est-à-dire, comment, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ça semble un peu une situation à l'italienne, on va dire, c'est ce qui se passe en France aujourd'hui. Et les Italiens sont comme les Français maintenant, désemparés tout le temps. Ils votent
comme ils peuvent.
Souvent les gros partis, comme toujours, parce qu'ils se disent que les gros partis, comme le Parti démocrate ou le parti de Berlusconi, ils ont du poids, ils peuvent faire des choses. C'est seulement eux qui ont les idées qui font avancer le discours ambiant. Et la gauche radicale est complètement, pour le moment encore, dans l'indécision. dans la décision, parce que la question fondamentale est le rapport avec le parti de Vanquart. Et donc il y a tout un débat à l'intérieur de la gauche sur qu'est-ce qu'on fait avec le parti de Vanquart. Et il y a certains avec lesquels je suis d'accord qui disent qu'il faut faire autre chose, qu'il y a encore des coalitions de centre-gauche qui vont se ramasser après quelques mois, parce que les programmes sont différents, parce qu'il n'y a pas la même politique. Et ceux qui disent, mais non, mais c'est, il faut faire un front commun pour gagner contre Berlusconi avant, maintenant c'est contre la Ligue du Nord, et maintenant c'est encore contre les mouvements 5 étoiles. Il y a toujours un contre sur lequel il faudrait se mobiliser. Mais on ne parle jamais de politique réelle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les gens, pour qu'ils arrivent à avoir un salaire digne? Ça, on le dit très peu. Donc il me semble qu'il y a une question fondamentale, même stratégique, de stratégie politique, c'est cette question de l'alliance ou pas avec le Parti démocrate. Et là, il y a une très grande confusion à ce moment, sans compter la question de l'Europe, qui divise d'une façon très forte la gauche radicale en Italie, mais un peu moins qu'en France, il me semble, parce que pour le moment, il y en a peu qui veulent sortir de l'euro à gauche, et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui veulent sortir de l'euro à droite, comme la Ligue du Nord ou le mouvement 5 étoiles. Et donc ça crispe un peu si on dit qu'on veut sortir de l'euro de gauche. De gauche, c'est mal vu en fait, on ne peut pas.
Ben, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Je vais laisser la parole à Samantha qui a quelques annonces à nous faire.
Qui revient tout le temps en Italie, c'est pas nouveau, ça va pas se résoudre comme ça. Il y a un parti, effectivement le parti 5 étoiles, qui fait sa campagne sur la probité d'un politique, donc contre la corruption. Ils disent que les politiciens sont tous corrompus, qui sont tous des professionnels de la politique qui ne devraient pas l'être, qui ont beaucoup trop d'argent, qui sont beaucoup trop, toutes des choses que je pourrais partager, parce que ce n'est pas faux. Le problème du mouvement 5 étoiles, à mon avis, c'est déjà que seulement sur la question morale, on ne fait pas une politique. Il faut la question morale, il faut questionner la moralité des politiciens. Il faut qu'il y ait des règles pour éviter que les politiciens puissent abuser de leur pouvoir et empocher de l'argent, surtout. Mais avec ça, on fait pas, seulement avec ça, on fait pas une politique. Et d'ailleurs, c'est l'ironie qu'il y ait plusieurs figures de importantes du mouvement ont été inquiétées par la magistrature. Il y a le maire aussi de Parme qui avait été inquiété pour une histoire de déchets. Non, mais je ne me rappelle plus trop bien l'histoire, mais c'était. Et la maire de Rome qui a été dernièrement inquiétée par la police, mais toute une histoire. La maire de Rome a très très très, très mal joué son élection, parce qu'en fait elle a été portée par plus de 60% des voix. Il y avait une espérance très grande envers elle, mais finalement elle s'est entourée des anciens, certains d'extrême droite, qui gouvernait la ville quand il y avait le maire Alemán, qui était un néo-fasciste romain. Donc, il n'y a pas que ça. Elle a pris aussi dans son cabinet des gens de gauche. Donc, comme je vous disais, le mouvement 5 étoiles, c'est gauche, droite, il y a un peu de tout dedans.
petite ville, un petit village en Calabre, et qui est sur la route, le canal central méditerranéen, là où arrivent énormément de migrants. Et c'était un village qui se mourait. C'était un village quasi abandonné. Et c'est à l'arrivée d'un bateau avec 200 Kurdes en 1998 que ça a complètement changé le village et redynamisé. Enfin, les Kurdes ont réaménagé les maisons pour que les Kurdes s'y installent, et c'est devenu un endroit symbolique de l'accueil des migrants avec quelque chose qui s'appelle la Città Futura. Et donc le film revient sur l'immigration italienne qui a été énorme pendant les deux derniers siècles. Et c'est qu'à partir des années 75 que la tendance s'est inversée. Et maintenant, l'Italie, en tout cas les pays très très pauvres comme ça, se repeuplent grâce à l'arrivée des migrants. Donc le film sort le 8 février en France. Et il va, là, aujourd'hui, samedi, il y a tout un truc au grand voisin. Attendez, il va être tout un truc au grand voisin. On sonne à leur porte. c'est dans le 14e arrondissement, c'est un grand complexe qui vient d'ouvrir, qui accueille des migrants, mais c'est aussi un accueil de plein d'associations qui viennent en aide aux migrants. Donc là, on va montrer le film à 18h, il y a les deux réalisatrices qui seront là, Shua Yello et Catherine Catella, et ce sera avec l'association Le Carillon, qui vient en aide aux sans-abri, qui fait le lien entre les commerçants et les sans-abri, pour que les commerçants les aident, etc., charger leur portable, etc. Il y aura une soupe impopulaire aussi, faite avec les invendus. Et aussi l'association L'Aurore, qui vient aussi en aide aux migrants. Donc le film est soutenu avec plein d'associations aussi comme partenaires au film. Donc ça, bon voilà, ça c'est une paysie de Calabria. On a un site internet www.unpaesidicalabria.com. Et on reste en Italie encore, parce qu'il y a les éditions Demopolis qui ont, avec Gérard Mordillat qu'on a reçu, qui ont republié Le fascisme de Mussolini, pour savoir de quoi on parle. Mais c'est une présentation par Gérard Mordillat, attention, c'est pas lâché comme ça, mais c'est pour bien savoir de quoi on parle quand on parle de fascisme. Ça ça fait froid dans le dos, mais c'est important à lire. Aussi, je voulais signaler le dernier CQFD qui n'est pas piqué des verres. Il y a écrit ACAB en première page, mais en fait, c'est pour dire All computers are bastards. Tous les ordinateurs sont des salopards. Voilà, CQFD, le journal de critique sociale mensuel, vient de sortir. Voilà pour moi.
Merci beaucoup, Samantha. Et bien maintenant, notre émission est complètement terminée. Et merci beaucoup à toi, Samantha, de nous avoir fait la technique. Merci à Gianfranco Rebuccini d'avoir été avec nous.
Merci.
Pour nous expliquer un peu cette situation italienne assez compliquée, finalement. Merci à Julia.
Merci, Laure.
Et à la semaine prochaine.